This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Salut toi, c'est Alix et bienvenue à la soirée pyjama de Mademoiselle. Pour ce second épisode, on va partir ensemble à la rencontre de Lola Dubini, que tu connais sûrement en tant que youtubeuse, chanteuse, humoriste, bref, une femme aux mille talents. Bonne nouvelle, elle ne va pas cesser tout de suite de t'épater puisqu'elle sort le 9 avril son tout premier album que je te conseille d'aller tout de suite mettre en précommande ou d'aller carrément écouter après cette soirée pyjama. En attendant, prépare ta tisane ou ton ginto et tiens-toi prête pour une soirée pyjama haute en couleurs avec la meilleure meuf à base de vinaigre et d'accent canadien. Bonne écoute. Salut Lola.
Salut.
Je suis super contente de t'avoir à ce micro.
Moi aussi, je suis très contente d'être là, vraiment. En plus, il y a des bonbons et tout. Vous pouvez pas le voir, mais il y a vraiment des M&M's et tout.
Bah ouais, soirée pyjama à mourir.
J'adore.
Et comment ça va ?
Eh ben, ça va super. Posée, tranquille, dans une petite ambiance guinguette et tout. J'adore, hein. Franchement, je suis trop bien dans le canapé là. Je bouge pas.
Et bon, on va commencer tout de suite avec la première partie du podcast. Donc, il s'agit d'un fake Marie Kill.
J'adore ce jeu. Je suis fan.
Je vais te donner trois personnalités et tu vas devoir choisir avec qui tu veux te marier, avec qui tu veux passer une nuit et qui tu vas devoir tuer.
Malheureusement. J'ai vraiment hâte de savoir qui tu as sélectionné.
Alors, je me suis un peu inspirée de tes goûts musicaux.
Ouais.
Et j'ai choisi Céline Dion, Joe Dassin et Adèle.
Et attends, alors ça veut dire que dans ces trois, je vais devoir tuer quelqu'un ?
Oui.
C'est terrible. C'est terrible.
C'est dur ces choix-là.
Ah ouais, c'est méga dur.
Et je si dirais... c'est pas dur, c'est pas drôle, tu vois.
Alors, je vais te dire. Je pense que. Alors attends, non, c'est super dur. Je pense que je vais me marier. Déjà, on va kill Joe Dassin. Parce qu'il est déjà kill.
Ouais, ouais.
Donc vraiment, par respect pour lui, on va le laisser
mourir. Moi, je l'adore. Je suis vraiment.
Mais je l'adore aussi.
Tellement fan de
bah
lui.
Ouais,
mais
surtout
bon.
Que j'ai fait une reprise du Café des Trois Colombes avec Patrick Fiori sur un album hommage à lui. Et ça m'a permis de redécouvrir plein de sons qu'il a fait. Et je pense que je vais me marier avec Céline Dion, parce que franchement, c'est charmé.
Ouais, ouais.
Et bon, je vais fuck Adèle, allons-y, quoi.
Ouais.
Allons-y gaiement. Bah, après, bon, c'est plus ma came de l'écouter chanter, quoi. Mais j'ai pas le choix.
Ouais, non, t'as pas le choix, du
j'ai
coup.
Pas le choix.
C'est vraiment le principe. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ce fuck Marie Kill très difficile.
Franchement,
finalement.
Il était dur, parce que peut-être j'aurais peut-être pu fuck Joe Dassin, quand même, je me dis. Parce que pour l'expérience... Ouais. Il m'aurait peut-être écrit une chanson, mais Adèle aussi, quoi. Que bon, écoute, Adèle, j'espère qu'elle écrira une chanson après notre superbe
serait...
coït, quoi.
Exactement, ce serait une chanson d'un soir, là, un
Hello,
truc un peu.
Lola Dubini.
Ah, tu fais bien.
Merci.
Et ben, on va tout de suite passer à la seconde partie.
Ouais.
Il y a un bol avec des questions, enfin un bol,
oui.
un panier en osier, avec des questions imprimées, et tu vas pouvoir en piocher.
Ok. Là, je commence.
Après les autres. Vas-y, tu peux lire la première.
Tu me dis stop ?
Ah vas-y, stop.
Ok. Alors, t'es qu'un con complexe, il t'a fallu combien de temps pour réaliser combien les complexes sont des gros cons et est-ce qu'il t'en reste malgré tout ? Alors l'histoire derrière cette chanson, c'est une chanson de mon album, je l'ai écrite quand je suis arrivée à Paris quasiment. C'était l'année où je suis arrivée, l'année d'après où je suis arrivée à Paris, c'était il y a 6 ans. Ça fait 7 ans que je suis à Paris, pardon, et je l'ai écrite il y a 6 ans. Et c'était après qu'un mec m'ait brisé le cœur, quoi, vraiment. En gros, j'en ai rien à foutre, il s'appelait Mehdi.
Juste allez, mais ça balance Mehdi.
Non, il s'appelait Mehdi, il m'a vraiment fait trop de peine, quoi. Et en gros, on s'était tourné autour pendant des mois. Et en fait, du jour au lendemain, mais ça a à voir avec les complexes, hein, c'est pour ça que j'en parle.
J'imagine.
On s'est tourné autour pendant des mois, puis du jour au lendemain, il m'a remballé. Et du coup, je dis bah ok, mais moi, je peux pas être amie avec toi, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à faire. Quand un mec me plaît, je n'arrive pas. Si je lui plais pas, à être pote avec ça, j'arrive pas, quoi.
Bah,
moi, je suis trop concernée. J'ai trop mal au cœur, quoi. Ouais, chaque fois que je le regarde, j'ai envie de l'embrasser, c'est pas possible. Je peux pas rester dans la même pièce que cette personne, tu vois.
Je comprends.
Du coup, et en fait, à une soirée, il a voulu me pécho, au final.
Et je dis, bah, ça a l'air d'être un peu un fuckboy, ce métier.
Ah bon? Ah bon, non, c'est une personne vraiment saine d'esprit. Et en fait, au moment où il a voulu me pécho, je dis, tu sais, mais dis-moi, j'ai fait beaucoup de... Je me suis beaucoup privée quand j'étais plus jeune de vivre des histoires, parce que j'ai commencé assez tôt à faire de la musique et à faire des concerts. Je dis, et là, en fait, moi, il n'y a plus rien qui me retient. Donc, moi, je suis prête à construire un truc, quoi. Et lui, il me dit, ouais, tu t'es beaucoup privée. Et là, je fais, comment ça, je me suis beaucoup privée? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là?
Oh là là, Mehdi, qu'est-ce qu'il dit?
Ah, Mehdi, et il me touche le bras, il fait, tu t'es pas trop privée, hein? Et là, je fais, oh my god, est-ce qu'il est vraiment en train de faire ça? Et du coup, je le regarde, je me dis, t'es vraiment qu'un gros con, en fait. Je me casse, il me rattrape, il me roule une pelle de l'espace. Improbable. Le pire gars, le mec complètement toxique, tu vois. Il me roule une pelle de l'espace. Et là, je profite deux secondes de la pelle, parce que quand même, j'attendais depuis longtemps cette pelle. Et après, je me suis dit, t'es quand même un gros con. Je le repousse. Et il me dit, bah, je comprends pas. Et je fais, bah, je sais pas ce que tu comprends pas, mec, mais t'es vraiment qu'un gros con. Je me recasse, il me reroule une pelle. Bon, j'avais envie de pisser, donc moi, je lui dis, mec, ciao, bye. Je m'en vais, en fait, là, t'es trop bizarre. Il me fait des reproches, il me dit qu'il a jamais rencontré une fille comme moi, que machin. Je dis, on parle à personne de ce qui s'est passé, on remonte, il en parle à tout le monde. On se voit 3 jours plus tard, il estime qu'on est ensemble. Trop chelou, mais il est trop chelou, hein. Cet homme n'a
aucun
sens. J'aimerais
le rencontrer pour savoir comment son cerveau fonctionne.
On s'est pas revu depuis, hein, parce qu'on était dans la même école de théâtre, on s'est jamais revu. Et le mec, donc moi j'avais un concert juste après, on se voit l'après-midi, tu vois. Et là, il dit, ouais, je t'ai montré à mes potes. Ils ont d'abord rigolé, après ils ont dit que ça allait. Première réflexion. Donc moi je me prends ça comme un uppercut dans la gueule. Deuxième truc, ouais, je suis jamais sortie avec une fille comme toi. Et du coup, je dis, ah ouais, genre une fille comme moi, de quoi? Il dit, bah, comme toi, quoi. Enfin, normalement, je sors avec des Mexicaines qui sont brunes et qui sont minces. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais bah, moi, je l'ai super mal pris, évidemment. Je dis, parce que moi, je suis la grosse bavarde. Il me dit, ah, c'est pas ça du tout, mais. Et il m'a dit un autre truc par rapport. Il regardait mon ventre. Il m'a dit, je peux toucher. Et là, j'ai dit, ok, mais... allez, bah, je me casse. Il essaie de m'embrasser. Je fais, mais qu'est-ce que Mehdi. Tu comprends pas, quoi, mec? Et du coup, et en fait, suite à ça, je vais boire un coup avec une copine humoriste qui s'appelle Carole Guinel. Et je raconte ça à Carole. Et elle me dit, mais meuf, on va se bourrer la gueule, quoi. Enfin, genre, on va boire des mojitos. Et il va comprendre, tu vas comprendre que c'est un gros con. Je vais t'expliquer par A plus B. Parce que Carole, elle était un peu comme moi, tu vois. Elle enchaînait pas mal les mecs débiles et qui nous reprochaient que notre physique tout le temps. Et ce même jour, je reçois un appel. Oui, t'es trop moche pour être sur cette chaîne. Allez, pam, je raccroche, je me casse chez moi et j'écris cette chanson. Et pour moi, bah, les complexes, j'ai mis. En fait, je pensais qu'à ce moment-là de ma vie, que j'avais plus de complexes, que c'était réglé parce que je me sentais hyper bien dans ma vie. Je faisais ce que j'aimais, je faisais du théâtre, j'écrivais des chansons, j'étais hyper épanouie. Et ça m'a chopé, ça m'a mis une nuquette, quoi, en plein vol. Et du coup, je veux dire, j'ai pas mis longtemps à réaliser que les complexes, c'est des gros cons. J'ai pas mis longtemps à savoir que les gens sont des gros cons qui nous rappellent nos complexes. C'est plutôt ça, le sens de la phrase. Et est-ce qu'il m'en reste des complexes? Bien sûr. Tu peux pas tout le temps tout régler, quoi. Moi, je pense que mes complexes, j'en aurais... j'espère en avoir de moins en moins, mais... j'ai plus de complexes handicapants. Genre ouais. Maintenant, j'ose mettre des tailles hautes. Avant, j'osais pas du tout en mettre. J'ai décidé d'un peu plus m'en foutre. Parce que, en fait, un jour, je trouverai quelqu'un qui acceptera ça à 100%, tu vois. Et je pense que plus on est nous-mêmes, plus on se fait aimer pour ce qu'on est, quoi. Enfin...
Ouais, de ouf.
Enfin, pour moi, si tu te caches trop, au bout d'un moment, t'es mal dans ta vie, quoi. Et oui, il me reste quelques petits complexes.
Ouais, je crois que c'est difficile de s'en débarrasser, mais j'ai l'impression aussi que la société fait que tu pensais ne plus en avoir, et puis ils vont t'en créer des nouveaux.
Ouais, c'est ça. Et puis là encore, je trouve qu'on est dans une ère un peu plus déculpabilisante, ouais, de plus en plus. Et heureusement, mais je pense qu'on a le même âge. Enfin, j'ai 27 ans, je pense que t'as peut-être un peu plus jeune, je sais pas.
Ouais, j'ai 25.
Ouais. Ouais, t'as 25, mais on est de la même génération. Et je trouve qu'on a grandi avec tellement de modèles polluants et dégueux que, ben, en fait, tu vois, moi, la seule meuf qui me ressemblait dans les médias, c'était Laurence Boccolini à l'époque du Maillon Faible. Ou Ursula, pour certains, tu vois, dans la représentation des gens un peu plus gros, c'était Ursula dans La Petite Sirène et c'était tout le temps des gens méchants. Mmh. Il y avait peu de chanteuses qui étaient blondes et plutôt enrobées, sauf des chanteuses de jazz. C'est pour ça que je suis allée plus vers le jazz au début. Enfin, je pense que t'es attirée par ce qui te ressemble et moins il y a de modèles qui te montrent que c'est possible et moins il y a de représentations positives, bah moins tu te sens capable de transcender les codes et de tout péter quoi. Tu vois, moi ce qui me désole, c'est par exemple qu'il y ait pas assez de représentations asiatiques dans les médias. Ouais. Ce qui fait que ben en fait du coup t'as des comédiens qui toute leur vie vont chercher des rôles et personne ne leur donne leur chance et c'est un truc en France qui est scandaleux. Mmh. C'est scandaleux. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, moi. Mais je pense que ce qui compte le plus, c'est les représentations positives et les modèles qu'on nous montre.
Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve qu'on va vers le mieux, c'est clair. Mais il y a du chemin quand même.
Il y a tellement de chemin à faire. Mais franchement, comparé à la génération de nos parents, moi je préfère être notre génération que celle de nos parents.
Ouais. Moi, je préfère même être la génération d'après nous, tu sais.
Ouais, t'as raison.
Ceux qui sont
et encore, tu vois, est-ce que ça t'est pas un peu flippé tous les bails TikTok à 12 piges? Moi, ça m'angoisse hein, quand même. Je trouve l'accès au réseau, mais heureusement que moi, j'ai pas eu les réseaux quand j'étais vraiment, vraiment plus jeune. Genre, ils commencent en primaire.
Ouais. Ouais, c'est vraiment à double tranchant.
C'est ça. Et moi, c'est un côté où, bah, en plus, vu que c'est devenu mon métier, les réseaux sociaux, avant, je les ai jamais, moi, consommés avant en tant que. Tu vois, par exemple, les blogs et tout. Il y avait que Mademoiselle que je lisais et je l'ai toujours dit depuis que depuis qu'on se connaît. Mademoiselle, je le lisais même au BTS et tout parce que je me faisais super chier en cours et je lisais tout le temps.
Pas parce que Mademoiselle c'était excellent.
non, mais parce que je veux dire normalement en cours t'écoutes, mais moi je avec mes potes on lisait Mademoiselle de ouf et je dis ben moi j'étais pas du tout consommatrice de ça avant, genre les Insta et tout j'en avais rien à foutre quoi. Mm-hmm. Et je me dis que maintenant il y a un métier, des envies qui sont de devenir influenceur. C'est chaud, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, je sais pas, je juge pas, mais je trouve ça fou qu'on en soit arrivé à ce point-là. On a connu les débuts de la télé-réalité avec Love Story en 2000 et tout. Mm. On a connu, nous, tous les premiers travers de la Starac, qui était quand même... Ouais. C'était chaud, tu vois, tout ça. Enfin, avec le recul.
Oui, avec le recul, parce que moi, sur le coup,
moi, sur le coup, j'étais méga fan. Mais avec le recul, on disait à Jennifer qu'elle était trop grosse, elle faisait un 40.
Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais oui.
Il y avait un nutritionniste.
Putain,
c'est... À la Starac. Il y a des trucs, en fait, on a grandi, nous, avec quand même des modèles polluants. Et maintenant, quand même... J'ai un peu le sentiment que maintenant il y a plus d'émissions comme ça qui pourraient fondamentalement sortir et il y a ce qui est plus flippant c'est que avant c'était des gros groupes qui nous foutaient des idées dans la tête et maintenant c'est des entités individuelles qui foutent des idées dans la tête. Et qu'est-ce qui est le plus dur à désamorcer? Bah, c'est quand tu crois vraiment en quelqu'un et en son intégrité. Je pense que c'est vachement difficile de défaire ta croyance quoi, défaire ce qu'elle te dit, genre suivre une Kim Kardashian. Moi, par exemple, ça a beau me faire marrer tout le côté de la famille Kardashian et tout, je me fais un point d'honneur à ne pas les suivre.
Ouais.
Parce que, ben, déjà, je consomme pas ce genre de télé. Et en plus, parce que ben, je vais pas donner de la force à ce que je suis pas, à ce que j'ai pas envie de suivre.
Ouais, de ouf, je comprends.
Et c'est pas parce que c'est de la pop culture que je m'y intéresse pas. Je m'y intéresse, mais en revanche, je donne pas de force.
Ouais, ouais. Ouais, parce que maintenant, le like, c'est la force, quoi. Ouais. C'est le nouveau... presque la nouvelle thune, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et même, je le vois, tu vois, au quotidien, dans la partie un peu plus, entre guillemets, influence qu'il y a dans mon métier. Maintenant, avant, on nous disait, ben, on te prend pour ta personnalité. Et maintenant, c'est coucou, tu peux nous envoyer tes chiffres.
Ouais.
Et ça, moi, ça m'écœure. À chaque fois, je les engueule, quoi. Je dis non, mais excusez-moi, mais si une marque a envie de travailler avec moi, c'est pas parce que je fais 15 000 vues en story ou 600 000 vues en story, en fait. Faut arrêter de penser comme ça, en fait. Enfin, moi, de toute façon, sur le marketing d'influence, ça en fera un autre podcast. Hein. Franchement, j'ai tellement
avec
de choses
plaisir,
à dire.
Vraiment.
J'ai tellement de choses à dire.
Eh ben, vas-y, tire une seconde question.
Ok.
Alors.
Hop. Oh mince. Bah, tu sais quoi, il y en a une qui est tombée du paquet et je vais la choper. Le titre et le style de la chanson que tu écrirais pour tes parents. Putain, très 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 bonne. J'ai écrit une chanson pour mon père dans l'album qui s'appelle À notre façon.
Ok.
Parce que j'ai eu une communication un peu plus compliquée avec mon père à l'adolescence, encore un peu maintenant, parce qu'on garde tous un peu les séquelles de ce qui s'est passé à l'adolescence. Et du coup, le refrain, c'est « on s'aime sans dire pardon et on s'aime à notre façon ». C'est en mode, malgré tout ce qu'on a pu se dire, au final, on peut ne pas se dire « je t'aime », mais quand même, c'est pas dramatique. Je dis plus souvent « je t'aime » à ma mère, c'est un peu plus difficile de le dire à mon père. Et,
ouais, okay.
Et du coup, je l'ai envoyé pour la fête des pères. Et il était, il m'a dit, j'ai un peu pleuré.
C'est vrai.
Mais ouais, ouais. Et en fait, cette chanson-là, à notre façon, moi, ça parle de mon père, mais j'aimerais qu'elle puisse parler à tout le monde d'une relation en général. Pour moi, c'est, il y a des gens malgré tout ce qui se passe et tout, tu vois, la manière dont tu peux être un peu des fois violent ou j'entends violent verbalement, parce que pour moi, quand on est violent avec les mains, faut partir, hein, tout simplement. Enfin, ouais. Si on peut, faut le faire. mais de la violence verbale. D'adolescents et tout, ça fait écho à la relation avec mon père, mais ça fait écho à la relation avec plein de gens, en fait. Donc, à notre façon, c'est une chanson que j'écris pour mon père, plutôt. Et après, pour mes parents, je pense que ce serait une balade, un truc... et le titre, ça pourrait être « Merci » ou un truc comme ça. Parce que moi, mes parents, ils ont toujours été trop chambés. Enfin, vraiment, je les adore, quoi. Ils m'ont toujours soutenue pour tout. Encore maintenant, ils me font des... Tu vois, mon père, il a inscrit à la Google Alert avec mon nom. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs un peu mignons, quoi. Tu vois,
c'est trop chou.
Non, non, ils sont. Franchement, je les adore. Ils ont, comme moi, plein de défauts. Mais j'ai mis longtemps à comprendre qu'ils avaient des défauts parce que c'était très dur pour moi de déconstruire l'image que j'avais de mes parents. Pour moi,
mais je trouve que c'est toujours hyper difficile de te rendre compte que tes parents sont des humains. Enfin, c'est vraiment un truc que je dis régulièrement, tu vois. Mais le jour où tu te rends compte que tes parents sont des humains, moi, c'est le moment où je me suis dit que j'étais adulte.
Ouais. Moi, attends, tu sais, en fait. C'est marrant parce que j'en discutais avec des gens de ton équipe un peu avant. En fait, moi, la première fois où j'ai... En fait, c'est que moi, mes parents m'ont tellement élevé dans un truc où tu peux tout dire tout le temps. Genre, ils sont toujours à l'écoute et genre, vraiment, pour ça, ils sont chambés. Mais ils m'ont élevé aussi en me disant, ben, en fait, si tu fais ça, tu vas nous décevoir. Forcément, genre, sur, par exemple, fumer tes clopes. Ils m'ont dit, ben, fume, ça va nous décevoir, mais fume, vas-y. J'ai jamais fumé de ma vie.
Ah ouais.
Oh, j'ai essayé quand même. Mais tu vois, j'ai jamais fumé, genre j'ai jamais acheté de paquets de clopes fréquemment. Je fumais en soirée quand j'étais au BTS et tout. Mais sinon, tu vois, j'ai jamais caché à mes parents que je fumais parce que je n'arrivais à rien leur cacher. Et surtout, je voyais mes potes qui arrivaient à critiquer leurs parents. Moi, j'arrivais pas à critiquer mes parents, tu vois, devant d'autres gens. J'étais genre, même avec mes sœurs, jamais on disait « putain, maman, nanana ».
C'est vrai.
Ouais, je te jure. Wow. Et parce qu'en fait, dès qu'ils me saoulaient, je leur disais. Tu vois ce que je veux dire, il y avait un truc où en fait tout se passait chez nous, et du coup j'avais pas besoin d'en parler à l'extérieur parce que
la résolution se faisait immédiatement,
c'était genre tu m'as gavé, je disais ah ça me gave, tu parles pas comme ça, ouais mais tu me caves, ok, et c'est passé, tu vois, au moins ils m'engueulaient un bon coup et c'était parti, quoi. Du coup quand j'ai déconstruit entre guillemets l'amour que j'ai pour mes parents, pour la première fois j'ai dit à quelqu'un que ma mère me saoulait.
C'est vraiment trop mignon.
Non, mais j'étais genre trop gênée. Je raccrochais avec ma mère et au téléphone, elle était à Clermont-Ferrand à l'époque. Et moi, j'étais en études à Bordeaux. Je dis, putain, ma mère, elle me saoule là. Pardon. Non, je me sens trop nulle de dire. Elle me dit, bah, t'as rien dit là. J'étais genre, bah, si, franchement, c'est trop.
T'avais quel âge?
Bah, j'avais. Mes études, j'ai eu mon bac à 17. J'avais 18 ans, 17-18 ans quand j'ai commencé. À plus parler des fois des discussions que je pouvais avoir avec mes parents qui étaient un peu plus houleuses. Mais je te dis, on règle tellement tout vite chez nous que...
Ouais. En fait, c'est assez sain comme communication, finalement.
Bah, je sais pas si c'est sain, mais en tout cas, nous, on se cache rien, tu vois. Il y a vraiment un truc de « tu me gaves, je te le dis, et on le prend mal pendant une heure, et puis on revient, quoi. » Mes sœurs, j'ai cette même relation, quoi. Des fois, on se raccroche à la gueule, puis on se rappelle 10 minutes plus tard comme si de rien n'était, quoi.
Ouais.
Ouais, je sais pas, je kiffe trop cette relation, parce que du coup, franchement... Enfin, ouais, moi, je me dis à chaque fois, j'ai trop de chance. Quoi.
Ouais, de ouf.
Vraiment. Hein.
C'est trop bien.
Ouais.
Eh ben, écoute, une troisième question.
Petite chanson,
si tu veux.
Alors, un mélange d'aliments improbables, mais délicieux. Tu sais que moi, en bouffe, en plus, je grignote pas beaucoup et tout. Donc, je suis pas... En fait, moi, j'adore l'acidité dans les plats. Donc, j'aime le citron, le vinaigre. J'en fous de partout. Le vinaigre, j'en fous littéralement de partout.
Ah ouais.
C'est-à-dire que le mélange qui peut être un peu improbable pour les gens, mais que j'adore, c'est pommes de terre vapeur et vinaigre balsamique. Mais pas crème de vinaigre balsamique. Hein.
Ah ouais, vinaigre, vinaigre à la balsamique. Barbare un peu comme ça.
Complètement. Okay. Oignon, vinaigre balsamique.
Ah ouais, juste oignon.
Vraiment. Je suis, j'ai, tu sais, moi, je suis pas difficile en bouffe. L'important, c'est que ça se mange. C'est vraiment...
Et surtout avec masse vinaigre balsamique. Est-ce que c'est genre une petite mare au fond ou c'est...
Non, mais ouais, bah, j'adore le pain en plus. Donc, ah moi, ouais, vraiment, je sauce la vie. Et mon plus grand bonheur, c'est quand dans les restos italiens, il y a de l'huile, de la focaccia et du vinaigre balsamique. Là, tu...
non, mais oui,
je suis au bout de ma... Je suis au bout, là. J'adore. Non,
mais
j'adore...
oignon, juste oignon cru. Vinaigre basé.
Alors non, oignon cru. Attends, t'abuses. Non, j'en mets. Souvent, je mets que du vinaigre balsamique dans ma salade.
Ouais.
Avec un peu d'huile de noisette ou un truc un peu sympa, tu vois. Mais j'adore. Là, j'ai testé, tu vois, récemment. Il y a plein de genres de vinaigre chez moi. J'ai tous les vinaigres. Vinaigre de framboise.
J'adore.
Vinaigre. Vinaigre
spécialiste de
balsamique
vinaigre.
Blanc. Mais parce que j'adore. J'adore l'acidité du vinaigre. Et j'adore, par exemple, les légumes. Tu sais, là, c'est trop la mode en ce moment. Des petites carottes vinaigrées, tu sais, des trucs un peu comme ça dans les bobounes ou
ouais je vois de ouf, ouais.
les poivrons, les trucs comme ça, ben ça moi je bois le jus des cornichons, quoi, typiquement j'adore, quoi.
Tu bois le jus des cornichons?
Les cornichons j'adore, je peux,
ouais, moi aussi j'adore, mais boire le jus, j'irais
pas en entier mais un peu. J'avoue,
j'adore.
Mange un M&M's.
Bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. tu peux tirer une autre question.
Pardon. Toi, c'est quoi ton aliment un peu chelou comme ça?
Alors, j'étais très saoule. Je revenais d'une soirée bien arrosée.
Ouais.
Et puis, je n'avais rien à manger. Mais pourtant, j'avais une dalle. Donc, il était 3h du mat et je commence à me faire des pâtes. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais... Je ne vais pas manger des pâtes à la tristesse, tu vois. C'est pas possible. Et donc, j'ai pris ce qui me restait, un fond de gazpacho. Et j'ai mis dans mes pâtes. Et j'ai trouvé ça pas dégueu.
Je suis morte. Mais attends, c'était du gazpacho un peu épais quand même, parce que sinon ça va.
Non, tu sais, c'est le gazpacho. C'était vraiment
quoi.
Ah ouais, non, c'était.
Non, c'est la rêve du gazpacho alvaillé.
Tu sais, j'étais.
Il est bon.
Ouais. mais ouais, parce que je sais pas, j'avais pas de sauce tomate, quoi, et je me suis dit. Oh, mais meilleure idée de l'année.
C'est dingue.
Voilà.
Mais tu sais que moi, la sauce Worcester, bah, typiquement, sauce Worcester, bah, je la fous partout, mais je suis. Ouais, j'ai un problème. Et derrière, je suis allée récemment voir une nana. Qui fait de l'acupuncture, qui te parle de l'acidité, nanana, elle me dit, ah, vous avez un corps acide, hein. Je sais pas, oui, ma pote, bah, bien sûr, copine.
75%
copine, je bois pas d'eau, je bois du vinaigre.
Et du jus de cornichon.
C'est ça. La prochaine question, c'est, tu nous fais une démo d'accent québécois. Donc, je te propose que je peux répondre à une question, t'as vu, avec l'accent québécois, si
mon
tu veux.
Dieu, mais tu sais que c'est ma passion, vraiment.
De faire l'accent, puis j'adore
le faire, mais je le fais pas aussi bien que toi.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, le fait de chanter,
ouais,
fait que je développe un petit peu le...
On y est là.
l'accent, puis j'ai beaucoup, beaucoup regardé de séries, de TV show.
De TV show en
québécois.
Et voyons donc. Et lesquels donc?
Typiquement, j'ai regardé le film Crazy.
OK.
Et Crazy a été longtemps une base, vraiment pour apprendre l'accent québécois. Et puis Céline, beaucoup de Céline. Céline a
pas
été...
très fort. Il n'est pas très fort, son accent.
Mais... Il n'est pas fort quand elle parle en France.
OK.
Mais quand elle parle à Québec, c'est vraiment abusé. Je te jure que c'est dingue. Et en fait, c'est marrant parce que quand je l'ai interviewée, elle était en France, donc elle parlait très... Et dans les commentaires, tous les Québécois ont dit « Bah ouais, c'est pas Céline qu'on connaît, c'est pas la vraie. » Et t'as d'autres gens qui disaient « Mais en fait, Céline, elle a vraiment trois personnalités. Quand elle est aux États-Unis, elle est très américaine,
ouais,
à beaucoup plus faire le show. En France, elle est beaucoup plus timide. C'est sa personnalité de... Bah, quand elle, c'est sa sensibilité de gens aussi à qui elle parle. Les Américains, ils sont beaucoup plus friands de divertissement et de TV show que nous, tu vois. Nous, on est plus dans les confidences, les choses comme ça. Donc, c'est intéressant de voir ça.
Mais ouais, moi je regardais beaucoup Le cœur a ses raisons.
Oh,
avec Anne
et Brand. J'adore.
Et ah, j'adore.
Et faites l'étoile.
C'est super radiophonique ce qu'on vient de faire. Clair. Mais vous regardez.
On l'a fait toutes les deux en même temps. On a fait l'étoile en même temps. Non, ouais. C'est très drôle. C'est très très drôle.
Ah, c'est du génie, ouais. Et ben il y a un
J'étais
super podcast
seule dans un bordel à Calcutta. Ça me fait vraiment trop rire, quoi.
Il y a un podcast que je te conseille si t'aimes bien Anne Dorval et Marc Labrèche. C'est Le plus beau jour de ma vie.
Ouais.
Et c'est juste eux qui rigolent sous et qui mais parlent non. pendant des heures. Ouais, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai jamais entendue de toute ma vie.
Mais viens, on le fait, nous.
Ah, mais complètement.
Complètement. On le fait et puis on le fait mal.
Non, toi, tu le fais vraiment très bien pour le coup.
Un Québécois qui m'entendrait parler, je pense qu'il me dirait non, il y a plein de défauts.
Peut-être, mais moi, franchement, ça le fait.
Ça sur marche. Un malentendu, ça se discute.
Ouais, clairement.
Alors, la prochaine question, c'est tu partages quoi avec Céline Dion le talent. Non, je déconne.
Ah oui, ça paye.
Non, je sais pas. En fait, c'est pas tant ce que je partage avec Céline Dion qui m'intéresse. Moi, c'est plus la force qu'elle m'a donnée à un moment de vouloir faire mon métier, quoi. Donc, je lui ai dit quand je l'ai vue.
Incroyable, ça a dû te faire un choc.
Improbable. En fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, OK, j'ai une interview avec de 10 minutes. Il faut que je désamorce avant parce qu'elle m'impressionne trop. Mais ouais. Je me suis vraiment dit, si je le fais pas, je meurs. Ouais. Et du coup, elle me regarde. Déjà, elle dit bonjour à tout le monde.
Trop gentil.
Et elle, normal en vrai.
Normal.
En vrai, normal.
Mais non, mais tu vois, c'est Céline Dion.
Elle a pas le temps. Quoi. Et moi, au moment, donc elle m'avait déjà dit bonjour au moment de faire l'interview. Sa manager nous présente et elle dit voilà, je te présente Lola Fay. Bonjour Lola.
Et là, j'ai eu des frissons mais quand tu l'as fait.
Et elle me dit, t'as les yeux de mon fils. Et là, je me suis dit, j'en pouvais plus. Et je lui ai dit, alors, je peux me permettre de vous appeler Céline. Elle me dit, mais tutoie-moi, appelle-moi Céline, il n'y a pas de problème. Et
oui, c'est Québec.
Et je dis, je voulais juste vous dire, enfin te dire que vraiment, moi, t'as été, t'es encore une grosse source d'inspiration. Et juste, en fait, grâce à toi, bon là, je te rencontre, donc c'est super. Mais grâce à toi, je suis chanteuse, quoi. Et merci, beaucoup, beaucoup. Elle me dit, ça me touche vraiment beaucoup. Là où il faut, tu vois, en mode... Ça se sentait que c'était sincère. Et en fait, plutôt que 10 minutes d'interview, elle m'a bien aimée. On a fait 31 minutes.
Putain, yes.
Et son équipe, elle me regardait, elle faisait genre continue. Et j'étais putain. Et son équipe, pour me remercier du moment, trop sympa, m'a invitée à Vegas.
Mais quoi? Mais ouais. Ça n'a aucun sens. Pourquoi les gens sont si gentils?
Et donc, il m'invite au show à Vegas. Donc, bon, j'ai payé mon voyage, mais j'étais avec ma sœur, c'était trop bien. Et en fait, j'ai eu un meet and greet avant où j'ai pu la revoir. Et en fait, elle savait pas que j'étais là. Et normal, parce que je suis personne pour Céline Dion à la base. Et elle a fait. Elle m'a dit Lola. Et j'ai fait genre. Je suis dans une partie de matière grise de Céline Dion. Et ma sœur, elle a fait. Oh! Genre, mais non! Donc, non, c'était ouf. En fait, c'est que pour moi, la Lola de 6 ans qui pensait que tout ça n'était pas possible, je me dis, en vrai, Béliève, quoi. Croyons en vos rêves.
Et toi, t'imagines un jour inspirer quelqu'un comme Céline t'a inspiré? Enfin, est-ce que t'as déjà eu des commentaires de gens?
En fait, j'ai souvent des commentaires de gens qui sont trop sympas et qui me disent, grâce à toi, j'ai compris que je voulais être chanteuse et tout, mais ça reste un concept, hein. Dans ma tête, c'est un concept. C'est dans ma tête absolument impossible que ça se passe. Donc, c'est un concept. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un dira oui, le premier album de Lola Dubini, machin. Moi, je me dis tant mieux, c'est chambé. Mais là, pour l'instant, dans ma tête, c'est vraiment un concept. Et puis, comme je dis, je pense pas. Tu vois, on me dit souvent, et ça me flatte beaucoup, et un peu comme ce que tu dis. Ça fait quoi d'être un modèle? Parce que tu sais, sur YouTube, on m'appelait pas mal la grande sœur, machin. Mais c'est un truc que j'ai toujours un peu... ça me fait toujours un peu flipper parce que c'est...
Beaucoup de responsabilités.
Oui, et puis j'aurais pas la prétention de dire que j'en suis un. Mais c'est surtout pour moi, je préfère me dire que je suis peut-être une représentation positive pour quelqu'un. Mm. Un bout de force qui pourra les amener à... comme moi, Valérie Damido ou d'autres gens dans les médias m'ont donné de la force. Céline Dion, Jessie J, beaucoup... en France, tu vois, même Alain Souchon peut être pour certains une représentation positive. Je trouve que c'est cool, quoi. Si ça peut être ça, tant mieux. Mais bon, j'aurais pas la prétention de le dire pour l'instant.
Pour l'instant.
Tu veux que je retire une carte, une question? J'ai jamais appelé ces questions des questions jusqu'à
c'était
présent.
C'était des chansons ou des cartes, mais.
Tu voudrais connaître le jour de ta mort?
Tout de suite, le podcast te prend un autre.
Je pense pas. Non, ça m'intéresserait pas.
Moi, je trouve que c'est horrible. Enfin, je sais pas qui voudrait.
Peut-être des gens qui sont contre le fric. Hein. Moi, je suis contre le fric, mais ouais. Pas de ma mort. Hein. Je veux dire, emportez-moi quand vous voulez. Juste sans douleur, c'est tout. Voilà. Après, peut-être que même si j'étais au courant de la manière dont je mourrais, je ferais tout pour pas me retrouver dans cette situation.
C'est ça.
Donc vraiment, non. Non, de toute façon, la mort, c'est une suite logique. Hein. On est tous on est tous c'est un passage, quoi. Je veux dire, c'est un peu glauque de dire ça. Et puis là, je le dis d'un air extrêmement détaché pour pas avoir trop de peine. Mais tu vois, moi, quand mes grand-mères, elles sont mortes, heureusement qu'elles sont mortes quand j'étais en âge de comprendre ce qu'était la mort. Et encore, est-ce que tu comprends un jour ce que c'est vraiment la mort? Tu vois, C'est des questions rhétoriques un peu cheloues. Moi, je me dis juste que...
Oui, puis ça n'existe que pour les vivants, en vrai, la mort.
Ouais. Bah, je sais pas ce qu'ils font, les autres. En tout cas, les morts, je sais pas ce qu'ils font. Il y a plein de gens, en ce moment, sur TikTok, il y a une trend qui me fait trop marrer, de gens qui parlent à leurs enfants, et leurs enfants leur disent qu'ils ont eu une vie avant.
Ah oui, mais
t'as
je
pas vu cette trend.
Mais je crois que j'ai déjà entendu
c'est
parler,
ouf.
Ouais.
Et moi, je suis très, très TikTok. Et genre, je matais ça, et je me disais... Putain, c'est ouf, quoi. T'as vraiment des parents qui te racontent que leur enfant leur a dit, voilà, moi, j'avais 3 enfants, j'habitais à tel endroit, et ils ont vérifié, et cette personne existait, quoi.
Ah, c'est chaud, ça.
Et ouais. Et là, récemment, t'as une nana qui disait, tu sais, maman, je t'ai choisie. Et la mère, elle fait, comment ça, tu m'as choisie? Ben, j'avais le choix entre plein de mamans, mais toi, je trouve ça ouf, quoi. Ouf. Donc, je me dis, peut-être...
Tu crois un peu, ou pas?
Bon, franchement, je me dis, c'est trop con de vivre tout ce qu'on vit, là. Dans notre vie, pour qu'on n'en fasse rien après. Mmh. Alors, si c'est pas pour donner un peu de force aux gens qu'on aime ou quoi, moi, il paraît que mon grand-père, il est avec moi quand j'écris. Un médium m'avait dit ça. Donc, tu vois, moi, ça me console en me disant son existence sur Terre n'aura pas servi à rien. Le fait de ne jamais l'avoir rencontré fait qu'en un sens, je me sens connectée à lui et à eux deux, à mes deux grands-pères. Donc, je pense que ça rassure les vivants aussi, de se dire que les morts sont pas loin et à la fois, bon, bah... Moi, j'y crois, quoi. Moi, je me dis franchement, il y a des trucs que j'aurais pas fait si j'avais pas eu de la force qui venait. Des fois, tu sais, t'as un genre d'instant de grâce dans ta vie. Pour moi, c'est l'action des morts, quoi.
Ah ouais.
Ouais. Toi, t'y crois à tout ça?
Moi, je sais pas. Je me pose pas mal de questions encore.
Ouais.
J'essaie aussi en même temps de pas trop m'en poser. Je sais pas, j'ai une sorte de. Tu sais, parfois, je me rappelle que je vais mourir et j'ai peur.
Ouais, mais c'est normal,
attends. Tu sais, t'as des coups de stress, tu sais, t'es en train de faire ton travail et tout, puis tu te fais. En fait, je vais mourir.
Moi, je préférais ne pas voir mourir mes parents, par exemple. C'est un truc qui... Moi, c'est plus la mort des autres qui me fait peur que ma propre mort. Parce qu'en réalité, bon, ma mort, c'est quelque chose... En fait, je trouve que la mort, c'est quelque chose. Et c'est horrible quand tu sais que t'es condamné, par exemple. J'ai des amis, tu vois, qui ont eu des maladies, des stades 4 de cancer, des choses comme ça, qui sont dramatiques. Et quand ils approchaient de la mort, ils avaient peur.
Ouais.
Et là, moi, j'ai l'air maligne à ce micro de dire j'ai pas peur de la mort, parce que c'est pas que j'ai pas peur, c'est que j'ai jamais été confrontée à un moment où j'allais potentiellement pouvoir mourir. Je dis juste que pour l'instant, ce qui m'effraie le plus là, maintenant, c'est la mort des autres, et presque que plus que ma mort. Puisque je sais pas ce qui se passe après, c'est un peu chelou, quoi. Tu veux qu'on passe à une question un peu plus gay, peut-être?
Allez, ouais,
on enchaîne. Que penses-tu de l'avortement? Ah. Que te dit la petite voix dans ta tête quand tu es face à un miroir? Alors, attends, très bien, très bonne question. Je ne crois pas du tout en ce truc de « dis-toi que t'es belle tous les matins ».
Ah ouais?
Ah, j'y crois pas, mais alors, pas 2 secondes, quoi.
Ah ouais.
Toi, t'y crois?
Je sais pas, je me dis que parfois, ça m'aide un peu, tu vois.
Ah, tu le fais?
Bah, parfois, je me
regarde... Je suis là dans le jugement, hein, un peu, non, je rigole.
non, mais tu sais, parfois, je suis là, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ce matin? Et après, je suis là, allez, Alix. Donne-toi 3 compliments, tu vois.
Ah ouais, c'est marrant. Eh non, tu vois, moi j'ai encore un peu de mal à le faire. Mais je pense que c'est parce que je viens pas d'une famille où on s'auto-convainc de grand-chose. Tu vois, je crois pas du tout au développement personnel, en tout cas à lire des bouquins. Moi, ça n'a aucune incidence.
Ouais, moi aussi, en vrai, ça me... Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu du bullshit. Jusqu'à ce que j'ai lu l'été dernier un bouquin de développement personnel. Et alors, j'avais l'impression d'avoir découvert la vérité, quoi.
Ouais, mais moi, c'est vrai, j'ai un problème avec les bouquins de développement personnel qui te font... En fait, tout le monde dit oui, mais il faut que tu prennes que les parties que tu veux. Mais ça voudrait dire qu'il y a des gens qui se sentent plus intelligents que nous pour nous donner un mode d'emploi.
Ouais, c'est clair.
Qui correspond à 1 million de gens. Parce que ça voudrait dire que, par exemple, Maria Carré, Marine Le Pen, toi et moi, on peut avoir lu le même bouquin et se dire « Putain, c'est nous, c'est moi ». Et te dire que Maria Carré et Marine Le Pen peuvent se dire la même chose, ça met les choses en perspective. Mais après, je ne suis pas en train de détruire les croyances des gens. Moi, je laisse les gens croire et ça aide beaucoup de gens, le développement personnel. Encore maintenant, tu vois, il y a beaucoup de métiers qui sont développés autour de ça. En revanche, moi... Je pense être adepte du développement personnel, mais plus dans des introspections et moins dans de la lecture de bouquins, la vie des autres.
Ouais, de ouf.
C'est plus quelque chose que je fais en interne, quoi, dans mon
usine.
Donc
tu pourrais écrire un bouquin, finalement, puisque...
Complètement, parce que je... voilà, je...
Parce que tu le fais naturellement.
Exactement. Donc, non, mais en tout cas, j'essaie de régler mes problèmes, entre guillemets, mes questions un peu rhétoriques, tout ça sur la vie en interne et en discutant avec mes potes. Ça, j'adore. Peut-être qu'il faudrait que j'en lise un, mais même, ça m'intéresse pas trop.
Ouais, moi en fait, moi j'aime bien plonger dans les histoires.
Moi j'adore, ouais, pareil, l'imaginaire et tout. Moi les trucs trop terre à terre, j'ai pas besoin de ça quoi.
Moi j'avais fait une méthode, ça s'appelait le Libérer votre créativité de Julia Cameron.
Ouais, c'est le bouquin comme par magie là. Enfin, c'est un peu le même genre de bouquin, je pense.
Ah ouais.
Ouais.
Et donc ça t'aide à devenir plus créatif, à débloquer l'artiste en toi, etc. Et alors, bah, je n'ai pas été jusqu'au bout, quoi. Donc vraiment, c'est dire mon implication. Mais après, tu vois, tu as plusieurs tips qui sont utiles aujourd'hui, tu vois. Et je capte à des moments où j'écris des trucs et je me dis, là, je me vois me bloquer. Donc je sais me débloquer, tu vois. Genre, j'ai passé quelques levels.
Ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'écris des chansons. Et je pense savoir quand est-ce que je bloque et tout. Après, je me dis pas que ma méthode est la bonne. Mais je devrais peut-être lire des bouquins plutôt sur les méthodes créatives. En revanche, pour tout ce qui a trait à ma vie personnelle, gérer mes colères et tout, bah moi, j'irais voir un psychologue peut-être, mais pas lire des bouquins de quelqu'un que je connais vraiment pas du tout. Quoi.
Et qui te connaît pas non
plus. Et qui me connaît pas non plus. Parce que, en fait, pour moi, un livre ne peut pas résumer 100 000 personnes. En tout cas, un livre best-seller me fait peur.
Mmh. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Je te laisse piocher la dernière question.
Voilà la pression.
Podcast. J'ai trop envie de rester là des heures à parler avec toi, mais.
Attends, putain, je sais pas laquelle prendre.
Attention. Elle est longue, celle-là.
Oh merde. Bon, il y en aura deux. Hein ?
Allez.
Ah bah, c'est parfait, on terminera là-dessus.
Ok.
Ouais. Le 3 juin 2014, tu chantais Il n'y a jamais de princesse dans les contes. C'est quoi les coulisses de cette première vidéo postée sur YouTube ? Bah, le 3 juin 2014, je pense que j'étais arrivée à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est mon premier concert parisien à la Dame de Canton. Et c'est la fille de mon éditrice de l'époque qui était venue filmer. Et c'était pour moi un truc de ouf. J'avais invité tous mes potes de l'ISEG à l'époque. J'étais en licence de communication marketing. Et ils m'avaient apporté des bouquets de fleurs. Tu vois, c'était vraiment genre mon premier concert. Donc,
ça va être trop bien, ouais.
Les coulisses de la première vidéo YouTube, bah, c'est que c'était vraiment le concert, quoi. C'était mon premier concert à Paris. Et la dernière question, c'est au fait, pourquoi on s'aime déjà ? Parce que c'est le titre de mon premier single. Pourquoi on s'aime ? Parce que ne pas s'aimer, c'est très dur et c'est long. Et ça fait qu'on est en lutte vraiment tout le temps. Et on l'a tous un peu été quand on était ados, souvent en lutte contre nous. Et c'est vraiment pas les meilleurs moments de notre vie, l'adolescence généralement. Moi, je dirais pourquoi on s'aime, c'est plutôt... dans cette chanson, je parle plutôt du rapport aux autres et... Et souvent, on peut voir les autres comme des ennemis, etc. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir des amis autour de moi qui sont très bienveillants et d'avoir trouvé cette soupape. Et cette chanson-là, c'est on n'a pas besoin de s'aimer comme dans les films. On n'a pas besoin de s'aimer à l'américaine. On n'a pas besoin d'aimer un homme ou d'aimer une femme. On n'a pas besoin d'aimer tout court. Mais on a juste besoin de trouver l'amour avec les autres pour sortir de notre solitude, en fait. C'est vraiment ça, cette chanson. C'est t'as pas besoin de faire comme les autres, mais t'es capable d'aimer quand même à ta façon, quoi. C'est vraiment ça.
C'est beau.
Merci,
c'est beau,
n'hésitez pas
ce podcast là-dessus.
À lire mon bouquin.
De développement personnel.
Qui s'appelle Pourquoi on s'aime avec... La suite.
Avec quelques recettes avec une à recette. Base de vinaigrette. Dédicacé à Mehdi, le gros con.
Voilà, et ben on embrasse Mehdi, c'est faux. On désamorce.
Je vais te laisser répondre à la dernière question. C'est une question qu'on pose à tous les invités de cette première saison de Soirée Pyjama. Et je vais te laisser y répondre seule, donc je vais sortir de la salle.
Oh mon Dieu.
C'est que voudrais-tu dire à la personne qui n'écoutera jamais ce podcast ? Donc c'est un peu une bouteille à la mer,
putain,
tu vois.
Ah ouais, c'est rude.
Donc voilà, mais je te laisse toute seule. Ouais. Merci encore Lola.
Bah,
pour,
merci à toi, tu rigoles,
podcast,
c'était trop cool.
C'était trop bien.
Alors toi qui n'écouteras jamais ce podcast, je voulais juste te dire que bah, déjà t'aurais loupé vraiment des anecdotes de Mehdi le gros con. T'aurais loupé une discussion vraiment cool avec une meuf cool, qui n'est pas moi, qui est Alix vraiment, qui est très cool. Et je te dirais que personne n'est parfait globalement et que si t'as pas eu envie de cliquer sur ce type de podcast, c'est parce que soit tu m'aimes pas ou soit t'aimes pas les soirées pyjama. Et je trouve ça triste parce qu'une soirée pyjama avec des chocobons, des bonbons et des M&M's, c'est cool. Et je te propose qu'on fasse la paix et qu'on regarde un Disney ensemble. Ça te dit, c'est cool. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire à quelqu'un qui n'écouterait pas ce podcast, mais à tous ceux qui l'ont écouté, merci beaucoup. Et puis on se retrouve, si vous le voulez, sur les réseaux. Et allez écouter les autres épisodes de ce podcast qui ont l'air vraiment super. Et je vais terminer en disant aussi à toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui me connaissent des réseaux et, ou depuis longtemps, que cet album, c'est aussi vraiment et très sincèrement grâce à vous. Et c'est souvent pas grâce aux personnes qui n'ont pas écouté ce podcast. Je vous embrasse.
Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast. Si cette soirée pyjama vous a plu, laissez-nous un commentaire et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast en indiquant quelle personnalité vous aimeriez écouter prochainement ici. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle soirée pyjama.